franceinter.fr.
Le Brexit à la une de la science aujourd'hui pour parler de l'esprit critique. Une semaine après le référendum qui scellait donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, beaucoup de citoyens anglais disent regretter leur vote. Nous avons voulu interroger la sociologie justement pour comprendre ce qui se joue derrière ces fluctuations de l'opinion. Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, membre de l'Institut universitaire de France. Est-ce que le Brexit dit quelque chose de nouveau aujourd'hui sur la valeur de la démocratie ?
Bah, écoutez, il dit quelque chose de nouveau et tout à la fois très ancien. Parce que c'est un serpent de mer de la démocratie que de se poser de la question de savoir s'il existe une sagesse des foules ou si au contraire les foules sont irrationnelles. Vous savez que depuis longtemps, par exemple, Platon dans La République ne croyait pas tellement que le peuple pouvait être philosophe. Heureusement, un certain nombre d'autres penseurs ont essayé de défaire cette impression. Et aujourd'hui, ce qui est un peu plus à la mode, notamment dans la philosophie politique du XXe siècle, c'est de considérer au contraire qu'il y a une sagesse des foules et que la délibération collective aboutit la plupart du temps à des décisions qui sont supérieure, disons, au point de vue individuel. Alors évidemment, les résultats du Brexit, selon que l'on soit favorable au maintien ou au retrait, c'est pas du Royaume-Uni dans l'UE, va avoir des analyses un peu différentes.
Est-ce que, excusez-moi, par rapport aux politiques, c'est pas aussi une façon quand même de se décharger de décisions difficiles à prendre aussi et de s'en référer à la démocratie et au peuple?
En l'occurrence, pour le cas anglais, c'est très clair. Il peut y avoir des stratégies d'utilisation du référendum, ça c'est sûr. Mais en même temps, le recours au peuple est tout de même totalement légitime en politique. Et d'ailleurs, c'est une des grandes interrogations des sciences politiques d'aujourd'hui. C'est comment rénover en quelque sorte ce qu'on considère comme être une usure des démocraties par l'ensemble des procédures de démocratie collaborative, on dit parfois participative, délibérative, c'est pas tout à fait la même chose, mais la question qu'on peut se poser, c'est, en termes d'ingénierie sociale, est-ce que ce type de recours à ce type de procédure aboutit toujours à une décision qui est conforme à l'intérêt général ? Voilà, c'est ça la question centrale.
Comment est-ce que vous expliquez ce regret que certains citoyens font connaître comme un retournement de masse ?
Eh bien, c'est bien là le problème. C'est une des curiosités et un des intérêts d'ailleurs que représente ce vote du Brexit, c'est qu'en effet, les individus semblent déclarer aujourd'hui, ou certains d'entre eux, qu'ils ne voteraient plus de la même façon. Donc, on peut suspecter une forme d'irrationalité du vote. Alors, cette irrationalité, elle peut s'expliquer de bien des façons, si tant est qu'on admet qu'il y a eu un vote qui est en partie irrationnel, puisqu'il est regretté. Eh bien, on a vu dans la campagne du Brexit très clairement qu'il y a eu toutes sortes d'arguments. On ne peut pas dire qu'il y a eu un débat. Certains vont dire que ce n'était pas un débat démocratique, regrettant la conclusion du vote. Ça, je pense que c'est une absurdité. Chacun a pu développer ses meilleurs arguments, seulement certains arguments ont été plus entendus que d'autres. Et ce qui est tout à fait frappant dans les débats publics, c'est que la plupart du temps, ce sont les arguments du risque, du coût et de la peur qui l'emportent sur les arguments du bénéfice qu'aurait telle ou telle décision. Et il y a plein d'explications à donner à cela, mais une des explications qui est quand même intéressante, c'est de se souvenir que notre cerveau a plus d'attention en général pour les coûts que pour les bénéfices. Il y a même certains expérimentateurs, notamment Daniel Kahneman, qui a prix Nobel d'économie en 2002, qui a pu montrer que pour compenser 1 euro de coût, il fallait 2,5 euros de bénéfices. Donc je dirais que les idéologies de la peur en général, dans les débats référendaires, elles peuvent compter sur un 12e homme, qui est celui du fonctionnement ordinaire de notre cerveau.
Et donc ça a été absolument essentiel justement dans les résultats aussi de ce référendum.
C'est difficile de l'évaluer, mais quand on regarde le nombre d'arguments et la nature des arguments, chacun a pu bien voir que ce qui était craint dans un camp et dans l'autre d'ailleurs, c'était les coûts éventuels économiques du Brexit ou du fait de rester au contraire dans l'UE. Et d'un autre côté, on l'a vu aussi, le thème de l'immigration a emporté le gros morceau en quelque sorte, alors qu'il n'était pas forcément central dans la question qui était posée. Donc oui, je pense que ça peut être, c'est certainement un éclairage seulement partiel, pas exhaustif, mais c'est un éclairage. Un autre élément qui est bien connu et qui relève pas cette fois du fonctionnement du cerveau, mais bel et bien du fonctionnement d'un cerveau socialisé, c'est-à-dire qui réfléchit en groupe, c'est qu'il existe des effets de polarisation qui ont été évalués expérimentalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un certain nombre de cas, dans certaines situations, les groupes aboutissent à des décisions collectives qui sont plus radicales que la moyenne des points de vue individuels. N'est-ce pas ? Donc on se polarise, on se radicalise ensemble, et c'est vrai que dans un certain nombre de débats publics, c'est ce que l'on observe.
Vous avez parlé des arguments confrontés durant les débats. On est souvent face à des débats comme ça, d'experts, sans qu'on puisse trancher personnellement. Comment exercer son choix dans ce genre de cas ?
C'est redoutable. Parce qu'effectivement, par exemple, sur les conséquences économiques du Brexit, il y a eu des arguments favorables ou défavorables. Et nous, citoyens, je me mets dans le tas, vous voyez, nous ne sommes pas économistes. C'est extrêmement difficile d'évaluer la pertinence de ces arguments. Donc, il règne du coup une impression de confusion des arguments. Et on sait bien, là encore, que le cerveau réagit toujours avec ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons aller chercher les arguments qui vont dans le sens de nos représentations préalables. De sorte que ces débats ne sont certainement pas inutiles, notamment pour les indécis, et qui eux peuvent juger, mais à partir du moment où vous avez déjà un point de vue très établi, favorable ou défavorable au Brexit, bah vous allez trouver plus convaincants des arguments techniques qui vont dans le sens de vos compulsions idéologiques, quelles qu'elles soient.
Gérald Brunner, les aveux de mensonge des hommes politiques, je pense évidemment au leader du parti souverainiste UKIP, Nigel Farage, qu'est-ce que ça va dire également du lien entre les citoyens et leurs représentants ?
Bah écoutez, ça va certainement pas améliorer ce lien, ça va creuser sans doute une situation qui est quand même une situation classique en démocratie, qui est celle de la méfiance du pouvoir, hein. Rosan Vallon a écrit un beau livre, s'appelle La contre-démocratie, sur cette question. Mais on sait quand même que la défiance vis-à-vis du personnel politique, ça c'est vrai en particulier en France, atteint des sommets véritablement historiques, hein. On est, quels que soient les sondages, à peu près à 70 ou 80% de la population qui pense que les hommes politiques sont globalement corrompus. Ce qui est terrible, n'est-ce pas, puisque nos systèmes démocratiques sont fondés sur la confiance. Et donc, d'où la question, effectivement, de la démocratie délibérative collaborative, c'est-à-dire intégrer plus en amont des décisions politiques le point de vue des citoyens. Mais encore faut-il, à mon avis, penser, et là c'est peut-être la tâche des sociologues ou des politistes, penser en amont une ingénierie de ces décisions collectives pour s'assurer que les conditions sont bien réunies pour que la foule décidante n'aboutisse pas systématiquement à des points de vue, disons, qui s'écartent très notablement de l'intérêt général. Hein, vous savez que quand on demande, par exemple, à une population locale si elle veut, par exemple, une centrale de traitement des déchets ou bien un parc d'éolien, par exemple, eh bien, la plupart du temps, la réponse, c'est non. Not in my backyard, quoi, voyez. Donc, en fragmentant l'intérêt général par des intérêts particuliers, en ayant recours à la démocratie locale, on ne sert pas toujours, disons, les avancées progressistes d'un territoire.
Est-ce qu'Internet participe à ce que les fluctuations de l'opinion publique soient de plus en plus rapides ?
Ah ben ça c'est certain. Hein, on a pu mesurer, enfin j'ai pu mesurer par exemple sur la question des théories du complot qui m'intéresse beaucoup par ailleurs. Eh bien auparavant, avant Internet, il fallait attendre une trentaine de jours pour voir apparaître des premières théories alternatives à ce que les complotistes appellent la vérité officielle, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est zéro jour. C'est-à-dire le jour même d'un attentat par exemple, vous avez déjà toute une série d'arguments complotistes qui apparaissent sur la toile. Donc cette réduction du temps de diffusion, je dirais, de la crédulité, est effectivement un autre aspect très inquiétant de cette dérégulation du marché de l'information.
Merci beaucoup Gérald Brunner pour votre décryptage donc sur ces fluctuations de l'opinion autour du Brexit. Merci à vous.
Merci.
Bonne journée. Au revoir Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, bien c'est désormais prouvé, les méduses font partie des animaux les plus doués pour la nage. Trois chercheurs américains se sont penchés sur l'espèce la plus commune, Aurelia aurita, c'est son nom, afin d'étudier sa capacité à parcourir des kilomètres sans se fatiguer. Proportionnellement à sa taille, cette méduse consomme moins d'énergie que le dauphin ou le requin pour se déplacer. Et ce, grâce à ses mouvements très particuliers, lorsqu'elle bouge ses muscles, la méduse crée en effet un mécanisme de succion et de poussée très puissant. En créant des zones de haute et basse pression, l'animal est propulsé sans consommer trop d'énergie, une découverte qui pourrait inspirer les ingénieurs. Une nouvelle espèce de bactérie vivant dans notre peau vient d'être découverte au CHU de Nantes. Cette espèce identifiée par le professeur Corvec est très proche de Propionibacter acnes, responsable de l'acné et capable de générer des enzymes qui dégradent la peau. Eh bien, cette nouvelle bactérie nommée Propionibacter namensans, en hommage à la ville de Nantes où elle a été découverte et qui se dit namentum en latin, eh bien, peu ou pas dangereuse quand elle demeure sur la peau, ces petites bestioles peuvent néanmoins infecter les os quand elles se retrouvent dans l'organisme suite à une plaie ou à une opération chirurgicale. Donc bienvenue à cette bactérie nantaise. Et puis un vortex géant découvert à la surface de Neptune. Les scientifiques suspectaient depuis 2015 la présence d'un tel phénomène météorologique autour de Neptune, mais c'est le télescope Hubble qui en a apporté la confirmation le mois dernier. Les vortex, ce sont des sortes de montagnes gazeuses qui émettent des nuages clairs, formant ainsi une tache à la surface de la planète. Les clichés pris par Hubble vont permettre d'étudier de plus près ce vortex et peut-être d'en tirer des conclusions sur la formation et la disparition de ces phénomènes encore mal connus. Notez d'ailleurs que le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 26 ans, eh bien, vient de voir sa durée de vie prolongée de 5 ans supplémentaires.